Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont présents sur la page de l'émission Radicaux Libres qui est elle-même sur le site radioalpa.com. On aurait pu cette semaine vous parler de plein de trucs déprimants, en l'occurrence de la corruption de fonctionnaires. On apprend fin mars qu'une policière municipale a été mise en examen à la fin de l'année 2025 car elle est soupçonnée... On aurait pu parler de corruption de fonctionnaires. On apprend fin mars qu'une policière marseillaise a été mise en examen à la fin de l'année 2025 car elle est soupçonnée d'avoir vendu des milliers d'informations à des intermédiaires qui revendaient les tuyaux à des trafiquants. Tout va bien. La policière avait accès aux informations via des fichiers de police à partir de son poste de travail, à savoir l'accueil d'un commissariat. Début mars, ce sont 3 policiers municipaux marseillais aussi, qui sont suspendus pour corruption passive. Selon la presse, ils recevaient des marchandises du marché du soleil en échange d'informations sur des contrôles à venir. Le 31 mars maintenant, allez, on y retourne. Toujours à Marseille, un policier est condamné à 3 ans de prison avec sursis et ne pourra plus jamais défendre les valeurs républicaines. Et pendant 5 ans, il ne pourra pas être dans la fonction publique. Pour, je cite, corruption passive, violation du secret professionnel, détournement de données de fichiers, faux usage et offre de stupéfiants et détention d'armes. Waouh ! Cet ancien délégué syndical du syndicat d'extrême droite Alliance renseignait des trafiquants de drogue en piochant dans les innombrables fichiers mis à sa disposition, de fait, même s'il n'a pas le droit de s'en servir, on en reparlera, et en allant à la pêche aux informations auprès des collègues, une pêche favorisée par sa qualité de délégué syndical, comme ils sont vantés dans des conversations enregistrées par la police des polices. Bon ben là, c'est à Marseille, et c'est que la police. Seulement, la corruption, elle peut aller beaucoup plus haut et toucher toutes les régions. Tiens, ben sans transition, Nicolas Sarkozy, le plus petit de nos grands hommes, est toujours en procès pour corruption, hein, pour avoir participé et profité d'un pacte de corruption. Mais personne n'a le temps d'en parler, ben non, parce qu'il y a l'essence qui augmente. Eh, et puis il faut préparer ses vacances d'été. Pour en savoir plus, on vous conseille les résumés de Fabrice Arfi et ses articles sur Mediapart. Ah ben ouais, mais c'est payant. Mais on a tous une connaissance qui peut partager. En gros, c'est toujours pas lui, c'est toujours pas Nicolas Sarkozy. Et en plus, il est mal entouré. Guéant et Hortefeu, ses porte-flingues vont finir par devenir des fusibles. Il les charge. Ah ouais, être ami avec Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si c'est une sinécure. Voilà, la manière, les Guéant et Hortefeux vont devenir des fusibles à la manière d'un vulgaire Alain Juppé pour Jacques Chirac. Et décidément, à droite, c'est vraiment le parti des honnêtes gens, hein, et depuis tellement longtemps. On aurait pu vous parler de partis, mais des free partis. L'Assemblée nationale a majoritairement voté pour un durcissement des sanctions contre les organisateurs de free partis et inventé une infraction pour les participants, 1500 euros d'amende. Ce vote vient bien sûr de la droite républicaine et de ses alliés d'extrême droite. Ah bah au niveau des valeurs, ils sont super raccord, ils sont touche-touche, ils sont comme ça. Alors je fais des gestes avec mes doigts, je sais que c'est pas radiophonique, mais bon. C'est un premier vote qui appelle une confirmation par le Sénat. Le Sénat où l'extrême droite est très très bien représentée, tant il y a de sénateurs les républicains comme Bruno Retailleau. Bruno Retailleau soutient indéfectif des féminazis. Ah bah oui, là ça marche, les féminazis de Némésis. Ah ben les féminazis de Némésis, ils s'y connaissent en nazisme déjà, et puis en féminisme, beaucoup, 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 beaucoup moins. En tout cas, ils ont le soutien indéfectible de Bruno Retailleau, qui est donc un sénateur LR, mais qui connaît bien l'extrême droite, qui la soutient à l'extrême droite, qui est là pour elle. Les députés prévoient une peine allant jusqu'à 6 mois de prison ferme et une amende de 30 000 euros d'amende contre, je cite, le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'une free party. Eh ben, on a vu qu'il valait mieux renseigner les dealers en portant l'uniforme. Au moins, t'as du sursis. On aurait pu vous parler de la fraude. Bis repetita. La droite et les camarades de classe sociale de l'extrême droite. Oui, à l'extrême droite, il y a des prolos députés. Ça existe, mais ils sont très minoritaires. Eh bien, la droite et l'extrême droite à l'Assemblée nationale a voté mardi 7 avril en première lecture un texte pour surveiller tous et toujours plus les pauvres qui frauderaient. Par exemple, un faisceau d'indices sérieux suffira pour suspendre les allocations chômage pendant au maximum 3 mois. Alors, quelqu'un devra m'expliquer ce que veut dire sérieux dans la tête d'un contrôleur de chez France Travail. Oui, qui sont un petit peu biaisés par le fait que tout le monde est un fraudeur potentiel. Là. Les niches fiscales, par contre, ça va. Hein. Le texte était censé concerner aussi la fraude fiscale, mais rassurons le bourgeois, les niches fiscales continuent d'être ouvertes et l'optimisation fiscale sera toujours légale. Et pour ceux qui jouent plus gros et pourront donc négocier leur amende avec le fisc à la manière d'un vulgaire Vincent Bolloré, dont le groupe Vivendi a été exonéré, comme par magie, d'une amende de 320 millions d'euros. Oui, le canard enchaîné avait balancé l'info fin mars 2025. Eh bien, depuis, c'est rien passé. Non, rien, rien. Ça fait juste un an, on avait tous oublié, mais bon, c'est comme ça. Donc, à la manière d'un vulgaire Vincent Bolloré, ceux qui jouent plus gros, eh bien, pourront toujours aller dans les paradis fiscaux, parce que les paradis fiscaux se portent très, très bien. Oui, très, très bien, parce que, tout simplement, personne ne s'attaque à eux. En tout cas, pas vraiment. Vous vous souvenez, en 2016, il y avait eu les Panama Papers. Eh bien, l'ONG Oxfam s'en souvient, ça fait 10 ans. Et depuis, rien. Ah bon, on dirait une affaire Bolloré, dis donc. Selon l'ONG Oxfam, qui travaille sur le sujet, les paradis fiscaux abritent encore des milliers de milliards, ou des millions de millions. En tout cas, des nombres à 12 chiffres. Et c'est en euros qui représentent de l'évasion fiscale. La lutte contre tout ce pognon venant de milliardaires qui ne veulent pas contribuer à la solidarité nationale, mais surtout venant d'entreprises qui veulent garder les sous pour leurs actionnaires, devrait nous occuper tous les jours. Seulement, les parlementaires libéraux préfèrent voir des arrêts maladie frauduleux partout et donc interdire, par exemple, dans le texte voté mardi dernier par l'Assemblée nationale, le second renouvellement donné par les télémédecins. Parce que c'est forcément un peu... Enfin, vous voyez, les priorités des libéraux en économie s'apparentent à une guerre aux pauvres. Après avoir écrit tout ça, je pense que 30 secondes de chant révolutionnaire ne feraient pas de mal. Alors, je me suis dit qu'on allait mettre celle-là.
Oui, mais ça prend le dans le manche, les mauvais jours. Fais gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Bon, mais finalement, on a préféré vous parler de contrôle institutionnel. Ça va être gai encore. Le 21 mars dernier a eu lieu un rassemblement contre le racisme et le fascisme à l'occasion de la Journée internationale contre les discriminations raciales. 300 personnes de diverses organisations, et notamment du collectif Né ici ou venu d'ailleurs, mais aussi des Pékinpans encartés, étaient réunies sur la place de la préfecture. Un représentant de la FSU, syndicat surtout présent dans la fonction publique et assimilé, prend la parole.
Qui se prépare au niveau européen avec le pacte asile-immigration, vous l'avez entendu. C'est la généralisation de dispositifs de détection et de contrôle biométrique des personnes étrangères et racisées, transformant les services publics en auxiliaires de police. La reconnaissance faciale.
Ah là là, le pacte asile et immigration, il commence sa vie en 2019, quand les gouvernements des pays de l'Union européenne décident de s'attaquer à la crise des réfugiés. Oui, parce que ce sont nos gouvernements qui proposent des lois au Parlement, qui seront votées ensuite par le Parlement de l'Union européenne. Il ne faut pas croire, quand certains disent « c'est de la faute à Bruxelles », ils participent. Eh bien, les gouvernements des pays de l'Union européenne décident de s'attaquer à la crise des réfugiés. Oui, ils l'appellent comme ça. L'arrivée de quelques millions de personnes qui fuient la misère et la guerre devient rapidement une crise. Dans une entité de près de 450 millions d'habitants, vous ajoutez 4,5 millions d'habitants, c'est-à-dire 1%. Et c'est la crise, le déséquilibre. Il faut dire que cette entité supranationale, l'Union européenne, est engluée dans un modèle économique appelé le capitalisme, qui multiplie les pauvres au profit des riches. Et quand la misère augmente, l'étranger devient rapidement un bouc émissaire idéal pour éviter de s'attaquer à la cause principale de nos déboires, à savoir la répartition des richesses. En plus, la solidarité n'étant pas le point fort des capitalistes au pouvoir dans l'Union européenne, puisqu'ils sont surtout animés par le libéralisme, et oui, et donc son égoïsme, les pays baignés par la mer Méditerranée, comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne, sont aidés du bout des doigts. Et des accords plus ou moins respectés de répartition des nouveaux arrivants n'équilibrent pas du tout la charge que représentent ces nouveaux arrivants quand ils arrivent dans quelques pays seulement, alors qu'on pourrait les répartir un petit peu partout. Idem avec le pognon que ça coûte. L'Allemagne, dont la population vieillit et peine à se renouveler par la procréation des habitants, décide d'accueillir 1 million de réfugiés. Mais elle est bien seule. Et nous voilà donc en 2019. Avec des guerres et des crises économiques qui durent, à bing, la Covid, rebing, la re-Covid qui revient, finalement les gouvernements de l'Union européenne parviennent à se mettre d'accord. Et en 2024, les députés au Parlement européen votent à la majorité pour le pacte asile et immigration, qui, je le rappelle, est donc un texte qui, au départ, émane d'une proposition des gouvernements de tous les pays de l'Union européenne. Eh bien, c'est un pacte qui rend la vie des étrangers en situation irrégulière, en clair la vie des sans-papiers, encore plus difficile. Pourrir la vie des gens, c'est l'idée des libéraux. T'es pas né au bon endroit, t'as pas de réussite sociale, tu n'as pas ton carnet d'adresse qui te permettrait à un moment d'être reconnu par quelqu'un qui a réussi socialement et qui pourrait te mettre le pied à l'étrier, et pourquoi pas devenir le compagnon d'une princesse italienne ? Eh ben va te faire foutre ! Voilà ce que pensent en gros les libéraux. C'est de ta faute si t'as des soucis. Alors bah t'es un étranger en situation irrégulière venu dans un pays pour essayer d'améliorer tes conditions de vie et celles de tes enfants et celles de peut-être même tout ton village ou toute ta ville puisque t'envoies du pognon au bled. Eh ouais, mais fallait naître du bon côté de la frontière. Alors, eh ben je m'en fous. Et donc du coup, rendre la vie encore plus compliquée pour les étrangers sans papier, c'est un truc qui est possible pour ces gens-là. Jugez plutôt la première idée de ce pacte asile et immigration est de multiplier les zones d'attente aux frontières. Par exemple, dans les aéroports, comme à Roissy, où des gens sont enfermés sans avoir le droit de sortir, mais ils ne sont accusés de rien. Ah non, c'est comme ça. Ou alors sur l'île de Samos, au large du continent, une île qui appartient à la Grèce, mais qui est un peu trop proche de la Turquie. La seconde idée est de traiter les dossiers directement aux frontières de l'Union européenne. Et enfin, le pacte permet de renvoyer les migrants dans des pays sûrs, dont la liste est définie par l'Union européenne. Autant te dire qu'elle est large. Depuis 2024, l'extrême droite et la droite extrême représentent un quart des députés européens. Aussi, les textes de l'Union européenne prennent une nouvelle coloration. Surtout que la droite, qui n'a plus aucun scrupule à montrer son racisme et sa tentation autoritaire à tous les passants, eh bien, vote avec cette extrême droite et cette droite extrême. En décembre 2025, les ministres de l'Intérieur des 27 se réunissent. Notre représentant s'appelle déjà Laurent Nunez, on en reparlera. Celui qui n'essaie même pas d'empêcher les manifestations de nazis et fascistes assumées du comité du 9 mai. De cette réunion sortiront de nouvelles mesures rendant toujours plus merdique la vie de ceux qui fuient la guerre et la misère. Et en mars 2026, c'est toute la droite du Parlement européen qui vote les mesures proposées par les ministres, à savoir l'ouverture de camps hors Union européenne où seront examinées les demandes des migrants. Au-delà du rappel nécessaire que la droite et l'extrême droite ont tellement de valeurs communes, comme le tri des humains suivant des critères sociaux, raciaux, etc., l'exploitation des mêmes êtres humains qu'elles appellent des ressources humaines pour enrichir les premiers de cordée et leurs sous-fifres fidèles, qu'elles se retrouvent à voter ensemble dès que l'occasion se présente, ce petit historique nous ramène à notre sujet de départ, à savoir le contrôle des populations par des moyens technologiques. Depuis 2018, l'Union européenne finance avec notre pognon des outils numériques de détection de mensonges, appelé le « silent talker », pour refaire un premier tri dans les étrangers arrivant aux frontières. Or, on le sait, les pratiques policières les plus intrusives et les plus violentes sont d'abord testées contre les étrangers et les habitants des quartiers populaires avant d'être généralisées. Alors, ben, qu'est-ce qui nous pend au nez ? On continue à écouter ce représentant de la FSU qui parlait le 21 mars 2026, place de la préfecture.
Qui se prépare au niveau européen avec le pacte asile-immigration, vous l'avez entendu, c'est la généralisation de dispositifs de détection et de contrôle biométrique des personnes étrangères et racisées, transformant les services publics en auxiliaires de police. La reconnaissance faciale policière dont je vais parler maintenant s'inscrit exactement dans cette fuite en avant. Elle donne un outil technique pour mettre en œuvre cette idéologie de suspicion permanente, contraire à l'égalité, aux libertés fondamentales et à tout état de droit digne de ce nom. En effet, la reconnaissance faciale n'est pas une simple innovation neutre. C'est une technologie de surveillance de masse qui transforme nos visages en code-barres permanents, lisibles partout et tout le temps par la police et l'État. En rendant l'anonymat pratiquement impossible, elle arrache aux personnes leur identité contre leur volonté et donne aux autorités un pouvoir inédit pour suivre, profiler et contrôler la population.
Dans son propos, le syndicaliste au micro s'appuie sur l'enquête parue sur le site Disclose. Vous pouvez aller voir ça, disclose.ngo. Cette enquête est apparue le 16 mars dernier à propos de l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale lors de contrôles d'identité par les Bleus. Il s'appuie également sur le guide coproduit par Disclose et la Quadrature du Net. La Quadrature du Net étant un collectif de 80 associations qui luttent contre le meilleur des mondes de la consommation à la mode 1984. Un guide qui, je cite, démontre l'illégalité de cette pratique et plus généralement les dangers de cette technologie. Face à l'inaction des tribunaux, de la CNIL et des pouvoirs publics, il est temps de riposter et de s'organiser pour que ces pratiques soient sanctionnées et que soit enfin actée l'interdiction de la reconnaissance faciale. Ouais, alors à tous les gens bien qui n'ont rien à se reprocher et qui préparent leurs vacances d'été, bon courage quand ça sera mis en place. Ah, oh mais je comprends pas, mais pourquoi je... Eh ben, fallait y penser avant. Le guide s'intitule « Reconnaissance faciale et contrôle d'identité, que peut faire la police ?» À chercher sur le site laquadrature.net. Un guide dans lequel on apprend que les téléphones professionnels des flics et des pendeurs sont pourvus de logiciels de reconnaissance faciale permettant d'interroger des fichiers comme le TAJ. Le TAJ qui veut dire « traitement d'antécédents judiciaires ». Un fichier comportant près de 17 millions de fiches pour autant d'individus. Et toutes sortes d'individus. Hein. Il suffit d'avoir eu affaire à la police, à la gendarmerie ou à la justice. Vous avez dénoncé votre patron harceleur dans une main courante? Vous êtes dans le TAJ. Vous avez porté plainte à la suite d'un cyberharcèlement par des rageux zémouristes? Vous êtes dans le TAJ. Vous avez été témoin de violences policières et vous avez témoigné? Bravo. Vous êtes dans le TAJ. Vous avez été faussement accusé d'avoir de la drogue dans votre sac et une procédure a été ouverte contre vous. Vous êtes dans le TAJ. Le TAJ est l'un des très nombreux fichiers dans lesquels les populations sont recensées, annotées, identifiées selon des critères. En 2020, En 2020, je me trompe de ligne. La Caisse populaire contre la répression de Lyon publiait la première mouture d'une brochure intitulée « La folle volonté de tout contrôler », sous-titrée « Les fichiers d'identification administrative de police, de justice et de renseignement ». La troisième version, qui date de 2024, recense plus de 100 fichiers actifs et donne des exemples de lettres pour demander si vous êtes dans les fichiers et puis des exemples de lettres pour demander à être effacé des fichiers. Si la brochure vous intéresse, allez voir sur l'immense site qui vraiment permet de donner beaucoup d'informations sur beaucoup de sujets différents, infokiosque.net, infokiosque, kiosque au pluriel, .net. Vous tapez « folle » dans le cadre cherché et tout de suite vous tombez dessus. Le TAJ, donc, est un fichier qui n'est pas accessible à tous les policiers et à tous les gendarmes du pays. Non, en fait, il faut une autorisation spéciale pour être le récipiendaire des informations contenues dans le fichier en question. Et l'utiliser sans autorisation est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 euros. Seulement avec les appareils dernier cri donnés aux forces de l'ordre, l'option « je regarde dans le TAJ sans rien dire à personne » est possible. Mais pour avoir quelque chose à lui demander au TAJ, il faut un nom, un prénom ou la bobine du Pékin. Et là encore, le bas blesse. Car pour avoir une tête à montrer au TAJ, les uniformes prennent des photos. Or, la prise de photos lors d'un contrôle d'identité est très encadrée par la réglementation. Eh oui, il y a des lois, messieurs les policiers. Eh oui, il y a des lois, messieurs les gendarmes. Ça se met aussi au féminin. Et puis, de base, comme on dit chez les Jones, la reconnaissance faciale est interdite, de toutes les manières. En France, sauf dans des cas très précis, dont ne font pas partie les contrôles d'identité. En résumé, dans le guide « Reconnaissance faciale et contrôle d'identité, que peut faire la police ?», page 39, on peut lire, je cite, « En conclusion, l'utilisation de la reconnaissance faciale via le TAJ lors des contrôles d'identité est illégale pour trois raisons. La photographie du visage lors d'un contrôle dans la rue est faite en violation des règles de la vérification d'identité, c'est-à-dire sans prévenir le procureur et sans procès verbal. En dehors de cette procédure de vérification d'identité, la prise de photo du visage est interdite. De plus, une circulaire interdit l'utilisation de la reconnaissance faciale lors de contrôles d'identité. Il est dit que c'est pour trois raisons. Voilà la deuxième. Elle nécessite l'accès au TAJ. Or, ce fichier est normalement réservé aux enquêtes judiciaires et son accès n'est autorisé que pour certains agents. En pratique, l'enquête de Disclose démontre que la reconnaissance faciale est mise en œuvre pour de simples contrôles et par des agents qui ne sont potentiellement pas habilités à accéder au fichier. Troisième raison, la reconnaissance faciale n'est de toute façon pas prévue par le droit et constitue un traitement disproportionné de données biométriques. Eh ben voilà. Mais alors si c'est illégal, pourquoi les forces de l'ordre le font? Eh ben peut-être par ignorance. J'ai pas mis par bêtise. Non, par ignorance. Ne sachant pas que c'est illégal. Cet argument ne tient pas la route. Non, parce que les forces de l'ordre ne connaissent pas forcément par cœur leurs prérogatives et leurs interdictions du code de procédure. Mais la maison Poulaga s'est déjà fait attraper sur le sujet en 2023. Disclose. Décidément, il y en a qui font le boulot. Ah ben, on n'est pas dans le Figaro. Hein. Toujours eux avaient relevé, je vais y arriver, en 2023, que depuis 2015 et au fur et à mesure du temps, plein de services de police et de gendarmerie s'étaient mis à utiliser un logiciel israélien qui s'appelle Briefcam pour rechercher des Pékins grâce à la reconnaissance faciale. Le logiciel n'était pas sur les téléphones mobiles pro, mais sur des ordis des commissariats et gendarmerie. À la suite de la révélation du site Disclose, le logiciel avait été abandonné. En tout cas, c'est ce qui avait été dit. Alors pourquoi continuer par d'autres moyens? Pour savoir, il faudrait être dans la tête d'un uniforme, ce que je ne souhaite à personne. Mais l'une des explications, c'est pour faire du chiffre et puis pourrir la vie des autres. Dans l'enquête de Disclose, un policier qui témoigne anonymement, sans doute pour éviter d'avoir un problème de carrière, explique que certains flics contrôlent des gens et quand ils s'aperçoivent que ces derniers ont des amendes pour stup ou autre chose, c'est dans le TAJ, il leur en colle une autre, comme ça. On connaît maintenant très bien le procès des policiers de multiplication des amendes pour noyer financièrement un Pékin. Une autre explication, c'est peut-être par sentiment d'impunité. Je peux tout faire, je m'en fous, il va rien se passer. Puisque l'affaire de 2023 n'avait pas donné lieu à sanctions, juste l'assurance, la main sur le cœur que c'était fini. C'est du passé. Je n'ai jamais entendu parler de forces de l'ordre qui ont été sanctionnées pour avoir utilisé un fichier sans y être autorisé, en dehors des affaires de corruption. Parce que ça passe dans la presse. Alors si quelqu'un a des données sur la teneur des sanctions dans la police et la gendarmerie, puisque on nous dit régulièrement que ce sont les métiers les plus sanctionnés en France, mais sanctionnés pourquoi? Je suis preneur, hein, si vous avez ça. N'hésitez pas à écrire à c'estpasmoi@no-log.org. Alors s'il ne se passe rien quand on franchit les lignes, pourquoi ne pas continuer? C'est à ce moment de l'émission que les voix des gens au-dessus de tout soupçon s'invitent dans le débat. Si on n'a rien à se reprocher, je fais une voix de merde, un petit peu. Mais si on n'a rien à se reprocher, c'est pas grave. Si la rousse ou la blanche outrepasse ses droits, puisqu'on n'a rien à se reprocher. D'abord, c'est pas parce que ce qu'on fait est légal qu'on a envie d'être repéré par les forces de l'ordre. Ensuite, c'est pas parce qu'on fait ce que l'on fait est légal aujourd'hui que ça ne sera pas illégal demain, suivant la couleur politique de nos soi-disant représentants. Enfin, on doit revendiquer le fait de ne pas être surveillé par l'État et ses représentants à tout bout de champ. La suite, c'est dans les mains de Laurent Nunez. Autant te dire, cher auditorice, que le dossier lui est tombé des mains. Celui qui chantait la Marseillaise avec des flics d'Alliance manifestant devant l'Assemblée nationale en février 2025 a tout simplement répondu à une question d'une sénatrice PS lors des fameuses séances de questions au gouvernement. Et lui demander de se justifier sur le sujet et s'il avait pris des sanctions, il a dit quelque chose comme ça.
Ça a été dit par mes prédécesseurs, ça a été dit par les directeurs généraux de la police nationale, de la gendarmerie nationale, cette pratique n'est pas légale. Cette pratique n'est pas légale. Nous l'avons dit à la journaliste de Disclose, qui pense avoir déniché tout un tas de cas assez importants. Je n'ai pas à rappeler les instructions, qui sont des instructions permanentes. Il y a les instructions des deux DG, je crois que les dernières sont pour l'une des directions de 2023 et l'autre de 2025. Cette pratique n'est pas légal. Okay ? Donc on ne l'utilise pas pendant les contrôles d'identité. Donc moi, je lis les médias, comme tout le monde, je découvre que la CNIL est saisie, on a vérifié, la CNIL est effectivement saisie, et mènera des enquêtes au sein du ministère de l'Intérieur, nous verrons bien. Je vous le dis, cette pratique n'est pas légale. Donc il n'y a aucune raison que je la cautionne, je la dénonce, elle n'est pas légale.
Eh bien voilà, c'est clair pour tout le monde. Alors moi j'aime beaucoup la phrase « cette pratique n'est pas légale, donc nous ne l'utilisons pas lors des contrôles ». Mais c'est clair, mais c'est si simple la vie d'un ministre de l'Intérieur. C'est le même qui affirmait en 2026 que les contrôles aux faciès n'existent pas. Bah alors pourquoi lutter contre? Ça n'existe pas. Alors la CNIL est saisie. Mais pour la justice, pour l'instant, on repassera. Ça risque de renforcer un petit peu le sentiment d'impunité des forces de l'ordre qui n'ont pas besoin de ça. Il n'empêche que, moi je vous rappelle qu'il existe donc un petit fascicule intitulé « Reconnaissance faciale et contrôle d'identité, que peut faire la police ?» et ça vous permet au moins de vous opposer verbalement à des pratiques qui sont illégales. Et pourquoi pas essayer de citer Laurent Nunez « Cette pratique n'est pas légale, donc nous ne l'utilisons pas lors des contrôles !» Eh ben voilà, revenons au 21 mars. À la fin, des prises de parole, pas de manif. Et pourtant, le samedi, les chalands de la rue des Minimes et des rues piétonnes auraient pu entendre autre chose que des histoires de bonnes affaires et de lèche-vitrine. Ah, ça a été pas mal, peut-être, d'aller faire un petit cortège. Eh, ben, du coup, on attend la prochaine fois. Pour une fois, il va nous rester un petit peu de temps pour vous annoncer ce qui se passe. Eh bien, malheureusement, comme tous les samedis, une manifestation de solidarité avec les Palestiniens, Palestiniennes, les Libanais, les Libanaises, tous ceux qui sont qui s'en prennent plein la figure parce que Tsahal, l'armée israélienne, qui est en ce moment dirigée par un gouvernement d'extrême droite où on trouve des suprémacistes, décide que on va raser un petit peu une partie du territoire. Pourquoi ? Eh ben pour empêcher les habitants d'y habiter, tout simplement. Donc manifestation de solidarité avec les peuples qui sont soumis l'armée israélienne. Ça se passe à 14h, place de la République, pour dire sa solidarité avec ces peuples. On a également, et là par contre, va falloir vous dépêcher, le samedi 11 avril, à partir de midi, cette rue de la Marne, à l'Allumette, vous avez une cantine végé. Repas partagé pour découvrir la cuisine végétale, se rencontrer et passer un bon moment. Prix libre, tu donnes ce que tu peux, ce que tu veux. Ah ben voilà, à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses moyens. Ils ne seraient pas un petit peu marxistes, tous ces gens-là. Ça se passe donc cette rue de la Marne, aujourd'hui pour les auditeurs du direct. On aurait pu également vous parler d'une réunion de l'Assemblée du collectif sartois des soulèvements de la terre. Ça se passe le lundi 20 avril, ça nous emmène un petit peu loin, à 18h30, assemblée du collectif sartois des soulèvements de la terre qui a lieu, devinez où ? À l'Allumette. Décidément, il s'en passe des choses. À l'Allumette, cette rue de la Marne. Je vous rappelle que l'Allumette a souvent besoin d'argent, tout simplement pour fonctionner. C'est un centre social autogéré, donc qui ne demande pas de subvention, qui ne lui serait pas donnée d'ailleurs. Donc du coup, n'hésitez pas à les aider, je vais y arriver, l'Allumette, cette rue de la Marne, où on pourra aller à l'Assemblée du collectif sartois des soulèvements de la terre le lundi 20 avril. Et puis, il se passe plein d'autres choses. Toutes ces choses, n'hésitez pas à en parler autour de vous. J'étais en train d'oublier le jeudi 16, le lancement de la cantine solidaire Marmite. Il y a un jeu de mots. Et ras-le-bol. Présentation d'un livre et discussion. Ça sera à partir de 18h au bar Le Lézard, rue de la Barrerie. Le bar Le Lézard, rue de la Barrerie, vous savez, c'est celui où les fachos balancent des trucs contre la vitrine. Voilà, non mais ça le mérite d'être clair comme ça. À partir du moment où votre vitrine est déglinguée par des fachos, c'est sûrement qu'il se passe des trucs pas mal. Et en l'occurrence, le jeudi 16 avril, soirée de lancement d'une cantine solidaire. Eh bien, que vous dire de plus, qu'il ne faut pas hésiter à lire et contribuer à larnapé.info, qu'il faut lire et contribuer à tout ce qui est dans le réseau Mutu. Et puis, qu'on peut lire, contribuer, mais aussi participer à des manifestations quand elles ont lieu. Et pourquoi pas en organiser. Tout ça nous permettrait de nous retrouver un petit peu dans la rue. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est dans la rue que ça se passe. Quand il se passe quelque chose, eh bien, en attendant de s'y retrouver ici ou ailleurs, je vous dis tout simplement, allez, Au revoir.